Chapitre 3. Le sacrifice de prospérité. Plus nous examinons attentivement les offrandes, plus nous réalisons qu'aucune d'elles ne présente, à elle seule, un type complet de Christ. Chaque offrande a des traits qui lui sont particuliers, et ce n'est qu'en les considérant toutes ensemble que l'on peut se faire une idée assez juste de chacune. Le sacrifice de prospérité diffère à plusieurs égards de l'Holocauste. Et une compréhension claire des points par lesquels un type diffère des autres aidera à bien saisir la signification de chacun d'eux. Ce qui différencie ce sacrifice de l'Holocauste. Le triple acte d'écorcher la victime, de la couper en morceaux et d'en laver l'intérieur et les jambes, prescrit pour l'Holocauste, est omis pour le sacrifice de prospérité. Dans l'Holocauste, comme nous l'avons vu, nous trouvons Christ s'offrant lui-même à Dieu et étant pleinement accepté de lui. Par conséquent, le type devait figurer le Christ se donnant entièrement à Dieu et acceptant d'être sondé jusqu'au fond de l'âme par le feu de la justice divine. Dans le sacrifice de prospérité, la pensée principale est la communion de l'adorateur. Ce n'est pas Christ, objet exclusif de jouissance pour Dieu, mais Christ devenant objet de jouissance pour l'adorateur en communion avec Dieu. C'est pour cela que l'action est ici moins intense. Aucune âme, quelque grand que soit son amour, ne peut s'élever à la hauteur du dévouement complet de Christ à Dieu ou de l'acceptation de Christ par Dieu. Dieu seul pouvait sonder le cœur parfait de Jésus s'offrant tout entier pour lui, dans un abandon total et volontaire tel que l'Holocauste nous le présente. Il en est de même quant au caractère du sacrifice. Dans l'Holocauste, ce devait être un mâle sans défaut, tandis que dans le sacrifice de prospérité, ce pouvait être un mâle ou une femelle, quoique également sans défaut. La nature de Christ est toujours la même, que ce soit Dieu seul ou l'adorateur en communion avec Dieu qui en jouisse. Cette nature ne saurait changer. La raison pour laquelle on pouvait prendre une femelle pour le sacrifice de prospérité était qu'ici il s'agissait de représenter la capacité de l'adorateur à jouir de celui qui fait éternellement les délices de Dieu. De plus, dans l'Holocauste, nous lisons « Le sacrificateur fera fumer le tout » chapitre 1, verset 9. Tandis que dans le sacrifice de prospérité, une partie seulement était brûlée, savoir la graisse, les rognons et le réseau qui est sur le foie. Voilà qui rend la chose extrêmement simple. La meilleure partie du sacrifice était mise sur l'autel de l'Éternel. L'intérieur, les forces cachées, les tendres affections de Christ, n'étaient que pour Dieu. Lui seul pouvait parfaitement en jouir. Aaron et ses fils mangeaient la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, qui sont respectivement les emblèmes de l'amour et de la force. Lévitique 7, versets 28 à 36. Tous les membres de la famille sacerdotale, en communion avec leur chef, avaient leur portion du sacrifice de prospérité. Et maintenant, tous les vrais croyants, constitués par grâce sacrificateurs pour Dieu, peuvent se nourrir des affections et de la force déployée à la croix par Christ. Ils peuvent jouir de l'heureuse assurance qu'ils ont son cœur aimant et son épaule puissante pour les consoler et les soutenir continuellement. C'est là le droit de l'onction d'Aaron et de l'onction de ses fils, dans les sacrifices de l'Éternel faits par feu, du jour qu'on les aura fait approcher pour exercer la sacrificature devant l'Éternel, ce que l'Éternel a commandé de leur donner, de la part des fils d'Israël, du jour qu'il les aura oints. C'est un statut perpétuel en leur génération. Chapitre 7, versets 35 et 36. Une part commune avec Dieu. Tous ces points constituent une différence importante entre l'Holocauste et le sacrifice de prospérité. Mais si on les réunit, ils nous présentent les deux offrandes avec une grande clarté. Il y a dans le sacrifice de prospérité quelque chose de plus que la soumission parfaite de Christ à la volonté de Dieu. L'adorateur est introduit, et cela non seulement pour regarder, mais pour manger. C'est ce qui donne à cette offrande son caractère particulier. Lorsque je considère le Seigneur Jésus dans l'Holocauste, je vois en lui un homme dont le cœur n'avait en vue que la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. mais si je le considère dans le sacrifice de prospérité, je trouve un ami qui a une place pour moi dans son cœur aimant et sur son épaule puissante. Dans l'Holocauste, la poitrine et l'épaule, les jambes et le ventre, la tête et la graisse, tout était brûlé sur l'autel. Tout s'élevait en bonne odeur à l'Éternel. Mais dans le sacrifice de prospérité, la portion même qui me convient le mieux m'est laissée. Et ce n'est pas dans la solitude que je dois me nourrir de ce qui répond à mes besoins individuels. Je le mange en communion avec Dieu et en communion avec mes frères. Je mange dans la pleine et heureuse connaissance que le sacrifice qui nourrit mon âme a déjà rafraîchi le cœur de Dieu et qu'il nourrit aussi tous ceux qui adorent comme moi. Le même Jésus qui est l'objet des délices du ciel est une source de joie, de force et de consolation pour tout cœur croyant, et non seulement pour chaque cœur en particulier, mais aussi pour toute l'Église de Dieu. Dans sa grâce, Dieu a donné à son peuple l'objet même de son cœur. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Il est vrai que nos pensées concernant Jésus ne peuvent jamais s'élever à la hauteur de celles de Dieu. Notre estimation de sa personne restera toujours beaucoup en dessous de la sienne, et c'est pourquoi, dans le type, la famille d'Aaron ne pouvait pas manger la graisse. Mais quoique nous ne puissions jamais nous élever au niveau de l'appréciation divine de la personne et du sacrifice de Christ, nous nous occupons néanmoins du même objet que Dieu. C'est pourquoi les fils d'Aaron avaient la poitrine tournoyée et l'épaule élevée. Tout cela est bien propre à consoler et à réjouir le cœur. Le Seigneur Jésus, celui qui a été mort, mais qui est vivant au siècle des siècles, est maintenant le suprême objet devant les yeux et dans les pensées de Dieu, et dans sa parfaite grâce, il nous a donné une part à ce même Sauveur glorieux. Christ est notre objet aussi, l'objet de nos cœurs et le sujet de notre chant. Ayant fait la paix par le sang de sa croix, il est monté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit. Par le puissant ministère de cet autre Consolateur, nous pouvons nous nourrir de la poitrine et de l'épaule de notre divin sacrifice de paix. L'expression « sacrifice de prospérité » est parfois traduite « sacrifice de paix ». Le mot hébreu dérive de la même racine que le mot « paix ». Il est en effet notre paix, et c'est notre joie de connaître le bon plaisir que Dieu prend à ce qui fonde notre paix. La bonne odeur de notre sacrifice de paix réjouit son cœur. En tant qu'Holocauste, Christ suscite l'admiration du cœur. En tant que sacrifice de prospérité, il établit la paix de la conscience et répond aux besoins de l'âme. La joie de la communion. Assurément, c'est une grande joie pour tout vrai sacrificateur de savoir, pour nous servir du langage de notre type, qu'avant qu'il reçoive la poitrine et l'épaule, Dieu a eu sa portion. Cette pensée donne de l'énergie et de l'élévation au culte et à la communion. Elle exalte la grâce de Dieu qui nous a donné le même objet, le même sujet de bonheur, la même joie qu'il a lui-même. Rien d'autre, rien moins que cela, ne pouvait le satisfaire. Dans la parabole, le Père veut que le Fils prodigue mange le veau gras en communion avec lui-même. Il ne veut pas qu'il prenne une place ailleurs qu'à sa propre table, ni qu'il ait une portion différente que celle dont il se nourrit lui-même. Le sacrifice de prospérité répond à cette parole « Il fallait faire bonne chère et se réjouir » Luc 15, verset 32. Telle est la précieuse grâce de Dieu. La joie de Dieu dans le salut des pécheurs et sa joie dans la communion des saints sont bien propres à faire déborder nos cœurs de louanges et d'actions de grâce. Sacrifice de prospérité et offrande de gâteau. Ayant ainsi comparé le sacrifice de prospérité avec l'Holocauste, considérons-le maintenant dans ses rapports avec l'offrande de gâteau. Ici, la principale différence consiste en ce que, dans le sacrifice de prospérité, il y avait effusion de sang et qu'il n'y en avait pas dans l'offrande de gâteau. Cependant, tous les deux étaient des offrandes de bonne odeur et étroitement liées entre eux, ainsi que nous le voyons au verset 12 du chapitre 7. Ces rapports et ces contrastes sont très instructifs. Ce n'est que dans la communion avec Dieu que l'âme peut se réjouir en contemplant l'humanité parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le Saint-Esprit nous communique, par la parole, la capacité de contempler l'homme Christ Jésus. Il aurait pu être révélé en ressemblance de chair de péché, vivre et travailler sur cette terre, briller au milieu des ténèbres de ce monde, de tout l'éclat céleste qui appartenait à sa personne, et rester pourtant au-delà de la portée et de la vue du pécheur. L'homme ne pourrait pas goûter la joie profonde liée à cette contemplation sans le fondement qui est pleinement établi dans le sacrifice de prospérité. Il posera sa main sur la tête de son offrande et il l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Chapitre 3, verset 2. Voilà le fondement solide pour la communion de l'adorateur avec toute la plénitude, la valeur et la beauté de Christ. Nous sommes rendus capables par l'énergie du Saint-Esprit d'entrer dans cette communion. Nous tenant sur le terrain élevé que procure le précieux sang de Christ, nous pouvons parcourir, avec des cœurs apaisés et un esprit d'adoration, les scènes merveilleuses qui se rattachent à l'humanité du Seigneur Jésus. Si nous n'avions que l'aspect de Christ tel que nous le présente l'offrande de gâteau, il nous manquerait le fondement sur lequel nous pouvons l'y contempler et en jouir. S'il n'y avait pas l'effusion de sang, il n'y aurait aucun fondement pour le pécheur. Mais l'offrande de gâteau est liée au sacrifice de prospérité, et nous apprenons par là que, quand nos âmes ont trouvé la paix, nous pouvons faire nos délices de celui qui a fait la paix et qui est notre paix. Cependant, bien qu'il y ait, dans le sacrifice de prospérité, l'effusion et l'aspersion du sang, l'acte de porter le péché n'est pourtant pas ce qu'il exprime. Christ ne nous apparaît pas là comme celui qui porte nos péchés, comme c'est le cas dans les sacrifices pour le péché et pour le délit, mais les ayant portés. Il nous apparaît comme le fondement de notre heureuse et paisible communion avec Dieu. S'il était question de porter le péché, il ne serait pas dit « c'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel ». Comparez le chapitre 3, verset 5, avec le chapitre 4, verset 10 à 12. Pour avoir communion avec Dieu, il faut que nous soyons dans la lumière. Et comment pouvons-nous y être? Uniquement en vertu de cette précieuse vérité, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Plus nous demeurerons dans la lumière, mieux nous reconnaîtrons tout ce qui est contraire à cette lumière, et mieux aussi nous apprécierons la valeur de ce sang qui nous qualifie pour y être. Si nous sommes dans la présence de Dieu, c'est parce que nous avons été rendus participants de la vie et de la justice divine. Le Père ne pouvait recevoir le Fils prodigue à sa table que revêtu de la plus belle robe et dans toute la réalité de la relation de Fils dans laquelle il le voyait. Si l'enfant prodigue avait gardé ses haillons ou avait été placé dans la maison comme un mercenaire, nous n'aurions jamais entendu les paroles « Mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, versets 23 et 24. Il en est de même de tous les vrais croyants. Leur vieille nature n'est pas reconnue comme vivant encore devant Dieu. Ils la considèrent comme étant morte, et eux devraient en faire autant. Elle est morte pour Dieu, morte pour la foi. Il faut la tenir comme telle. Ce n'est pas en améliorant notre vieille nature que nous parvenons à la présence divine. C'est en tant que possesseur d'une nouvelle nature. Ce ne fut pas en raccommodant les haillons de sa première condition que le fils prodigue obtint une place à la table de son père, mais en étant revêtu d'une robe qu'il n'avait jamais vue et à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant. Il n'apporta pas cette robe du pays éloigné. Il ne se la procura pas non plus chemin faisant, mais le Père l'avait pour lui, dans sa maison. Le fils prodigue ne la fit pas, ni n'aida à la faire, mais le Père la lui fournit et se réjouit de la lui voir. C'est ainsi qu'ils se mirent ensemble à table pour manger le veau gras dans une heureuse communion. Le péché en nous et le péché sur nous. Il est de la plus haute importance d'établir une distinction entre le péché dans la chair et le péché sur la conscience. Si si nous confondons ces deux choses, nos âmes en sont nécessairement ébranlées et notre culte affaibli. Un examen attentif de 1 Jean 1, versets 8 à 10, jettera beaucoup de lumière sur ce sujet. Personne n'aura autant conscience du péché demeurant en lui que l'homme qui marche dans la lumière. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Verset 8. Mais au verset précédent, nous lisons « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ici, la distinction entre le péché en nous et le péché sur nous est bien marquée. Prétendre qu'il y a encore du péché sur le croyant, en la présence de Dieu, c'est douter de l'efficacité du sang de Jésus et nier la vérité de la parole. Le sang de Jésus-Christ peut purifier parfaitement, et ainsi la conscience du croyant est parfaitement purifiée. C'est de cette façon que la parole de Dieu présente la question, et nous devons toujours nous souvenir que c'est de Dieu lui-même que nous avons à apprendre quelle est, à ses yeux, la vraie condition du croyant. Nous sommes, hélas, plus disposés à dire à Dieu ce que nous sommes en nous-mêmes qu'à le laisser nous dire ce que nous sommes en Christ. En d'autres termes, nous sommes plus préoccupés de nos sentiments sur nous-mêmes que de la révélation que Dieu nous fait de lui-même. Dieu nous parle en vertu de ce qu'il est en lui-même et de ce qu'il a accompli en Christ. Mais la même parole qui nous dit que nous n'avons pas le péché sur nous, nous dit avec tout autant de force et de clarté que nous avons le péché en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1, verset 8. Tout homme qui a la vérité en lui sait qu'il a aussi le péché en lui, car la vérité révèle chaque chose telle qu'elle est. Mais dans la puissance de la nouvelle nature, nous avons le privilège de pouvoir marcher de telle sorte que le péché, qui habite en nous, ne se manifeste pas sous la forme de péché. La position du chrétien est une position de victoire et de liberté. Il est délivré non seulement de la culpabilité du péché, mais encore du péché en tant que principe dominant de sa vie. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est justifié du péché. Que le péché, donc, ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, versets 6 à 14. Le péché est là dans toute sa laideur native, mais le croyant est mort au péché. Comment ? Il est mort en Christ. Par nature, il était mort dans le péché. Par grâce, il est mort au péché. Quel droit peut-on avoir sur un homme mort ? Aucun. Christ est mort une fois pour toutes au péché, et le croyant est mort en lui. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. Romains 6, versets 8 à 10. Que résulte-t-il de cela pour les croyants ? De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Romains 6, verset 11. Telle est, devant Dieu, la position inaltérable du croyant. Ainsi, il a le privilège de jouir de la délivrance du péché en tant que dominant sur lui, quoique le péché habite encore en lui. La confession des péchés. Mais alors, si quelqu'un a péché, qu'y a-t-il à faire ? À cette question, l'apôtre inspiré donne une réponse très claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. C'est par la confession que la conscience doit être délivrée. L'apôtre ne dit pas « Si nous demandons pardon, Dieu est assez bon et miséricordieux pour nous pardonner. » Sans doute, notre Père est assez miséricordieux pour répondre à toute la faiblesse et à l'ignorance de ses enfants. Mais le Saint-Esprit déclare, par la bouche de l'apôtre, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La confession est donc ce que Dieu demande. Dès l'instant où un chrétien confesse sincèrement son péché devant Dieu, il est parfaitement pardonné et purifié. Il y a une immense différence morale entre prier pour demander le pardon et confesser nos péchés. Il est fort possible que la prière d'un chrétien puisse contenir, quant au fond sinon quant à la forme, la confession de son péché, et alors cela revient au même. Cependant, il vaut toujours mieux nous en tenir strictement à l'Écriture dans ce que nous pensons, disons et faisons. Il est évident que lorsque le Saint-Esprit parle de confession, il ne s'agit pas de la prière. Et il est également évident qu'il sait bien qu'il y a des éléments spirituels dans la confession et des résultats pratiques de la confession qui n'appartiennent pas à la prière. De fait, il arrive souvent que l'habitude d'implorer Dieu pour obtenir le pardon des péchés témoigne de l'ignorance de la perfection de l'œuvre de la croix, de la position dans laquelle le sacrifice de Christ a placé le croyant et du moyen divin pour avoir la conscience soulagée du fardeau du péché et purifiée de sa souillure. Dieu a été parfaitement satisfait par la croix de Christ relativement à tous les péchés du croyant. Il ne lui faut rien de plus pour attirer son cœur vers celui qui croit. Nous n'avons pas à le supplier d'être fidèle et juste. Il l'est. Nos péchés ne peuvent jamais venir en présence de Dieu, puisque Christ, qui les a portés et ôtés, y est à leur place. Mais si nous péchons, notre conscience le sent. C'est le Saint-Esprit qui nous le fait sentir. Il ne saurait laisser une seule mauvaise pensée passer dans nos cœurs sans être jugé. Notre avocat, Jésus-Christ le Juste, est dans la pure lumière du lieu très saint, pour maintenir dans toute leur intégrité les relations dans lesquelles nous sommes. Mais quoique le péché ne puisse pas affecter les pensées de Dieu par rapport à nous, il affecte nos pensées par rapport à Dieu. Il s'amasse comme un sombre et épais nuage à notre horizon spirituel, en sorte que nos âmes ne peuvent se réjouir à la clarté de la face de notre Père. Il ne peut altérer notre relation avec Dieu, mais il peut très sérieusement altérer la jouissance que nous en avons. Qu'est-ce que nous avons donc à faire? La parole répond : si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Par la confession, notre conscience est déchargée et le sentiment de notre relation rétabli. Le cœur qui connaît la valeur de la confession sentira d'autant mieux la puissance des paroles de l'apôtre : mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. 1 Jean 2, verset 1. Il y a une manière de prier pour demander le pardon qui montre que le fondement parfait du pardon posé par le sacrifice de la croix est perdu de vue. Si Dieu pardonne les péchés, il est fidèle et juste en le faisant. Nos prières, quelque sincères et ferventes qu'elles soient, ne sont pas le fondement de la fidélité et de la justice de Dieu. Rien, sauf l'œuvre de la croix, ne saurait l'être. C'est là que la fidélité et la justice de Dieu ont été pleinement établies, et cela en rapport immédiat avec nos péchés, aussi bien que relativement à la racine du péché dans notre nature. Dieu a déjà jugé nos péchés dans la personne de notre substitut, et dans l'acte de la confession, nous nous jugeons nous-mêmes. Elle est essentielle pour jouir du sentiment du pardon divin et de la restauration. Le péché non confessé et non jugé demeure sur la conscience et interrompt notre communion avec Dieu. Le péché en nous n'a pas cet effet. Mais si nous permettons au péché de rester sur nous, nous ne pouvons avoir communion avec Dieu. Il a ôté nos péchés de telle manière qu'il peut nous avoir en sa présence. Et aussi longtemps que nous demeurons en sa présence, le péché ne nous trouble pas. Tout cela, j'ai à peine besoin de le dire, est entièrement fondé sur le sacrifice parfait et l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est beaucoup plus facile de demander, d'une manière générale, le pardon de nos péchés que de confesser ses péchés. La confession implique le jugement de soi-même. La demande du pardon ne le fait pas toujours. Le jugement de soi-même est un des exercices les plus salutaires de la vie chrétienne, et par conséquent, tout ce qui tend à l'amener doit être recherché. La différence qu'il y a entre demander pardon et confesser son péché est mise en évidence dans nos rapports avec les enfants. Si un enfant a fait quelque mal, il aura moins de peine à demander à son père de lui pardonner qu'à confesser franchement son manquement. En demandant pardon, il peut avoir à l'esprit bien des choses qui tendent à diminuer le sentiment de sa faute. Il pense peut-être qu'après tout, il n'est pas tellement à blâmer, quoique pourtant il soit convenable qu'il demande à son père de lui pardonner. Tandis qu'en confessant sa faute, il se juge lui-même. En demandant pardon, l'enfant peut être surtout influencé par le désir d'échapper aux conséquences du mal qu'il a fait, tandis qu'une pleine confession de la faute traduit une vraie appréciation du mal. Il en est de même quant à la manière dont les enfants de Dieu ont à agir à l'égard de leur père lorsqu'ils viennent à manquer. Il faut que tout péché soit mis devant lui et complètement jugé. Dieu veut que non seulement nous craignions les conséquences du péché, mais que nous haïssions le péché lui-même parce qu'il est odieux à ses yeux. Du pain levé avec le sacrifice. Tout cet enchaînement de pensées est pleinement justifié par les deux grands principes posés dans la loi du sacrifice de prospérité en Lévitique 7, versets 11 à 21. Au verset 13, nous lisons « Il présentera du pain levé avec son sacrifice » et cependant, au verset 20, il est dit « Et l'âme qui, ayant sur soi son impureté, mangera de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. » Nous avons ici les deux choses, savoir le péché en nous et le péché sur nous. Le levain parle du péché dans la nature de l'adorateur, l'impureté évoque le péché sur sa conscience. Par le sang de l'expiation, Dieu a pourvu à ce qui regarde le péché qu'il sait être en nous. C'est pourquoi il est dit, du pain levé du sacrifice de prospérité, « Il en présentera un en offrande élevée à l'Éternel, il sera pour le sacrificateur qui aura fait aspersion du sang du sacrifice de prospérité. » Verset 14. Le levain était parfaitement contrebalancé par le sang du sacrifice. Le sacrificateur à qui appartenait le pain levé devait être celui qui répandait le sang. Dieu a mis nos péchés loin de ses yeux pour toujours. Quoique le péché soit en nous, ce n'est pas sur lui que ses yeux reposent. Il voit le sang. Et c'est pourquoi il peut nous accepter en sa présence et nous permettre la plus intime communion avec lui. Mais si nous laissons le péché, qui est en nous, se développer sous la forme de péché, alors il faut qu'il y ait confession, pardon et purification. Le retranchement de l'Israélite à cause de souillures cérémonielles répond maintenant à l'exclusion du croyant de la communion à cause de péchés qu'il ne veut pas juger. Chercher à avoir communion avec Dieu dans nos péchés impliquerait l'idée blasphématoire qu'il peut marcher en compagnie avec le péché. N'imaginons pas que ce soit une marque de spiritualité d'être sans cesse occupé de nos péchés. Le péché ou les péchés ne peuvent jamais être le fondement ou le sujet de notre communion avec Dieu. La communion ne peut exister que dans la lumière. Et certes, il n'y a pas de péché dans la lumière. Là, rien ne se voit, sauf le sang qui a ôté nos péchés et l'avocat qui nous garde près de Dieu. Le péché a été effacé pour toujours du lieu élevé où Dieu et l'adorateur se tiennent dans une sainte intimité. Qu'est-ce qui formait le fond de la communion entre le père et l'enfant prodigue? Était-ce les haillons de ce dernier? Était-ce les gousses du pays éloigné? Nullement. Ce n'était rien de ce que le fils prodigue apportait avec lui. C'était la riche provision de l'amour du père, le veau gras. Il en est de même à l'égard de Dieu et de tout vrai adorateur. Ils se nourrissent ensemble de celui dont le sang précieux les a associés pour toujours, dans cette lumière de laquelle nul péché ne peut jamais approcher. Ne pensons pas non plus que la vraie humilité se montre ou se développe en considérant et approfondissant nos péchés. Cela produirait la tristesse et la mélancolie sans vraie sainteté. La plus profonde humilité procède d'une toute autre source. Quand est-ce que le fils prodigue était le plus humble? Est-ce quand il fut revenu à lui-même dans le pays éloigné, ou quand le père se jeta à son cou et qu'il entra dans la maison du père? N'est-il pas évident que la grâce qui nous élève aux plus grandes hauteurs de la communion avec Dieu est seule capable de nous amener aux plus grandes profondeurs d'une vraie humilité? L'humilité qui découle du pardon de nos péchés sera toujours plus profonde que celle qui découle de la découverte de ses péchés. La première nous met en rapport avec Dieu, la seconde nous laisse avec le moi. Pour être vraiment humble, il nous faut marcher avec Dieu dans l'intelligence et la puissance de la relation où il nous a placés. Il a fait de nous ses enfants, et pourvu que nous marchions comme tels, nous serons humbles. La scène du Seigneur. Avant de quitter cette partie de notre sujet, je désire faire une remarque relativement à la scène du Seigneur. Cet acte de communion de l'Église a des éléments communs avec le sacrifice de prospérité. La scène est tout spécialement une fête d'action de grâce pour une rédemption accomplie. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ ? 1 Corinthiens 10, verset 16. Une âme courbée sous le fardeau du péché ne peut pas prendre la scène du Seigneur, puisque cette fête exprime l'éloignement complet du péché par la mort de Christ. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. La mort de Christ est, pour la foi, la fin de tout ce qui appartenait à notre état dans la vieille création. La scène qui annonce cette mort témoigne du fait glorieux que le fardeau du péché du croyant a été porté par Christ, qu'il a ôté pour toujours. Il est vrai que nous avons du levain en nous, mais nous n'avons aucune souillure sur nous. Nous ne devons pas fixer nos regards sur nos péchés, mais sur celui qui les a portés à la croix et qui les a ôtés pour toujours. Nous ne devons pas nous séduire nous-mêmes par la vaine pensée que nous n'avons pas de péché en nous. Mais nous ne devons pas non plus nier la vérité de la parole de Dieu et l'efficacité du sang de Christ en refusant de nous réjouir de la précieuse vérité que nous n'avons pas de péché sur nous, car le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Quand la scène est prise, pour une raison autre que celle de la connaissance du salut, de la jouissance du pardon, du sentiment de la délivrance, l'âme s'enveloppe de nuages de plus en plus épais. Ce qui rappelle une rédemption accomplie est employé comme moyen d'y arriver. Ce qui n'est qu'un mémorial de Christ est employé à le mettre de côté. Le sacrifice de prospérité, ou sacrifice de paix, nous fait voir que, dès le moment où le sang était répandu, Dieu et l'adorateur pouvaient se nourrir ensemble dans une heureuse et paisible communion. La paix était établie par le sang, et c'est de cette base que la communion procédait. Si nous sommes occupés à de vains efforts pour faire la paix avec Dieu, nous sommes totalement étrangers soit à la communion, soit au culte. Si le sang du sacrifice de prospérité n'a pas été répandu, il est impossible de se nourrir de la poitrine tournoyée ou de l'épaule élevée. Mais si le sang a été répandu, alors la paix est déjà faite. Dieu lui-même l'a faite. Pour la foi, c'est assez. Et par conséquent, par la foi, nous avons communion avec Dieu dans l'intelligence et la joie d'une rédemption accomplie. Nous goûtons la douceur de la joie même de Dieu en ce qu'il a opéré. Nous nous nourrissons de Christ dans la félicité de la présence de Dieu. Le culte. Ce dernier point est lié à une autre vérité importante indiquée dans la loi du sacrifice de prospérité, et la chair de son sacrifice d'action de grâce de prospérité sera mangée le jour où elle sera présentée. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Chapitre 7, verset 15. C'est-à-dire que la communion de l'adorateur ne doit jamais être séparée du sacrifice sur lequel cette communion est fondée. Aussi longtemps qu'on a assez d'énergie spirituelle pour maintenir ce lien, le culte et la communion demeurent agréables et acceptables, mais pas plus longtemps. Nous devons nous tenir près du sacrifice, dans les affections de nos cœurs et dans l'expérience de nos âmes. C'est ce qui donnera de la force et de la durée à notre culte. Il se peut que nous commencions quelque acte du culte avec des cœurs tout occupés de Christ, et ensuite que nous soyons occupés de ce que nous faisons ou disons, ou des personnes qui nous écoutent. Nous pouvons commencer notre culte par l'esprit et le terminer par la chair. Nous devrions toujours nous garder de continuer un seul instant au-delà de ce que fournit l'énergie de l'esprit pour le moment actuel. Car l'esprit nous gardera toujours occupés directement de Christ. Si le Saint-Esprit produit 5 paroles d'adoration ou d'action de grâce, prononçons ces 5 paroles et taisons-nous. Si nous continuons, nous mangeons la chair de notre sacrifice au-delà du temps fixé, et au lieu qu'il soit accepté, c'est une abomination. Souvenons-nous-en et soyons sur nos gardes. Que cela pourtant ne nous alarme pas. Dieu veut que nous soyons conduits par l'Esprit et ainsi remplis de Christ dans tout notre culte. Et si le sacrifice de son offrande est un vœu ou une offrande volontaire, son sacrifice sera mangé le jour où il l'aura présenté, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Chapitre 7, verset 16. Quand l'âme s'élève à Dieu dans un acte volontaire de culte, cela provient d'une plus abondante mesure d'énergie spirituelle que lorsqu'il s'agit simplement de quelques grâces spéciales reçues au moment même. Si l'on a reçu quelques faveurs particulières de la main du Seigneur, à l'instant l'âme s'élèvera en action de grâce. Dans ce cas, le culte est suscité par cette grâce, est lié à cette grâce, quelle qu'elle puisse être, et il ne va pas plus loin. Mais quand le cœur est porté par le Saint-Esprit à quelque expression volontaire ou délibérée de louange, le culte aura un caractère plus durable. Dans tous les cas, le culte spirituel se rattachera toujours au précieux sacrifice de Christ. Et ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le troisième jour. Et si quelqu'un mange de la chair de son sacrifice de prospérité le troisième jour, le sacrifice ne sera pas agréé. Il ne sera pas imputé à celui qui l'aura présenté. Ce sera une chose impure, et l'âme qui en mangera portera son iniquité. Chapitre 7, versets 17 et 18. Rien n'a de valeur aux yeux de Dieu que ce qui est intimement lié à Christ. Il peut y avoir beaucoup de ce qui a l'apparence du culte, et qui, après tout, n'est que l'excitation et l'expression de sentiments naturels. Souvenons-nous que Dieu est esprit, et qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Et soyons en garde contre tout cela. Veillons à ce que notre culte soit inséparablement lié à l'œuvre de la croix. Veillons à ce que Dieu soit le fondement, Christ le canal, et le Saint-Esprit la puissance de notre culte. Prenons garde que nos actes extérieurs de culte ne s'étendent pas au-delà de cette puissance intérieure. Il faut beaucoup de vigilance pour éviter ce mal. Nous pouvons commencer un culte dans le vrai esprit du culte, et, par faiblesse spirituelle, avant d'en être à la fin, nous pouvons tomber dans le mal qui répond à l'acte cérémoniel de manger le troisième jour la chair du sacrifice de prospérité. Notre seule sauvegarde, c'est de nous tenir près de Jésus. Si nous élevons nos cœurs en action de grâce, pour quelque faveur spéciale, faisons-le dans la puissance du nom et du sacrifice de Christ. Si nos âmes s'épanchent en adoration volontaire, que ce soit dans l'énergie du Saint-Esprit. De cette manière, notre culte aura de la fraîcheur, de la profondeur et de la hauteur morale. Il est intéressant de remarquer que, quoique le sacrifice de prospérité soit mis au troisième rang, chapitre 3, cependant la loi nous en est donnée après toutes les autres, chapitre 7. Ce fait n'est pas sans signification. Dans aucune des offrandes, la communion de l'adorateur n'est mise en évidence comme dans le sacrifice de prospérité. Dans l'Holocauste, c'est Christ s'offrant lui-même à Dieu. Dans l'offrande de gâteau, nous avons la parfaite humanité de Christ. Puis, passant au sacrifice pour le péché, nous voyons qu'il répond parfaitement au péché dans sa racine. Dans le sacrifice pour le délit, se trouve une réponse pleine et entière pour tous les péchés actuels de la vie. Mais la pensée de la communion de l'adorateur n'est présentée dans aucune de ces offrandes. C'était au sacrifice de prospérité à le faire, et c'est ce qui explique, je le crois, la place qu'occupe la loi de ce sacrifice. Elle vient à la fin de toutes les autres, nous enseignant par là que, quand il est question que l'âme se nourrisse de Christ, il faut que ce soit un Christ entier, considéré dans toutes les phases de sa vie, de son caractère, de sa personne et de son œuvre. En outre, quand nous en aurons fini pour toujours avec le péché et les péchés, nous ferons nos délices de Christ et nous nous nourrirons de lui à travers toute l'éternité.